Desquin. Vous êtes chef de service de la réanimation médicale au CHU de Tours. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre article portant sur l'utilisation de l'hydrocortisone dans les pneumonies communautaires sévères admises en réanimation. Alors, première question, quel est le rationnel de l'étude ?
Bonjour et merci de votre invitation. Le rationnel, les corticoïdes ont été évalués, le premier article publié avec une méthodologie très critiquable mais qui était celle de l'époque a été publié en 1956. Après, il y a eu peu de travaux publiés jusqu'en 2005 et les quelques papiers publiés l'ont surtout été à partir de 2010. L'idée, c'est que la pneumonie communautaire, qui est l'infection la plus fréquente à la fois globalement dans le monde, mais également dans nos services de réanimation, tue encore, et pas nécessairement parce qu'on ne dispose pas d'antibiotiques pour traiter les germes en cause. On va parler des germes bactériens, mais il y a également la place des virus qui est importante à prendre en compte, car là, on ne dispose généralement pas de traitements très efficaces. Mais qu'elle tue surtout à cause de l'inflammation ou de l'excès d'inflammation qui lui est associé et éventuellement des défaillances viscérales qui peuvent en découler. Donc l'idée de départ, c'est qu'un traitement que l'on suppose à visée anti-inflammatoire et immunomodulatrice par corticoïde pourrait aider à améliorer le pronostic et notamment améliorer la survie dans les pneumonies communautaires. Le rationnel clinique, les études disponibles à ce jour, CAPE-CODE, l'étude dont on parle, est le 18e étude publiée sur la question. Donc ça peut sembler beaucoup, en fait, quand on regarde sur ces 18 études, elles sont extrêmement hétérogènes. Les populations incluses sont très dissemblables, la sévérité très variable. Certains articles sont considérés comme incluant des patients sévères, mais ce ne sont pas des patients de soins intensifs ou de réanimation. Les types de corticoïdes étudiés, la dose administrée, la durée de traitement, le délai entre le début de la maladie et le début du traitement sont extrêmement variables. La façon d'évaluer le devenir des patients est également très variable. Et enfin, certains de ces articles ont indiscutablement des défauts méthodologiques ou des risques de biais qui sont importants, de telle sorte que quand on fait un peu le tri, on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de littérature qui est évaluée de façon méthodologiquement acceptable, cette question. Il y a, alors, on peut peut-être, il y a quelques travaux qui sont malgré tout tout à fait pertinents. Le premier travail, celui qui, moi, avait attiré mon intérêt historiquement sur cette question, c'est un travail publié par Confalonieri dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine en 2005 déjà, qui était un essai qui cherchait à montrer, qui avait réussi à montrer que l'évolution du rapport PaO2 sur FiO2 et les scores de défaillance viscérale s'améliorerait plus rapidement sous hydrocortisone que sous placebo, dans une série de 46 patients de mémoire de réanimation, dont les deux tiers à peu près étaient ventilés. Et puis, ce n'était pas l'objectif principal de l'étude, mais il montrait également un bénéfice en termes de mortalité. Mais cet essai qui, comme souvent les essais, pose quelques questions malgré tout de méthodologie, avait à l'époque beaucoup surpris, mais n'avait pas été suivi d'une mise en application de ce qu'il préconisait. Dans les suites, il y a eu quelques travaux relativement limités en nombre de patients inclus. Le deuxième travail de réanimation important, un travail d'Anthony Torres, qui, chez 120 patients à peu près, a évolué, lui, la méthylprednisolone. L'intérêt de son étude, c'est que les patients étaient sélectionnés sur un sang inflammatoire, une CRP à plus de 15 mg par décilitre, et il montrait que les patients échappaient moins souvent au traitement de la pneumopathie quand ils étaient traités par méthylprednisolone par rapport au placebo. La petite limite qu'on peut y apporter, c'est que il utilisait un critère composite un peu complexe pour l'évaluation. Et en fait, en réalité, quand on va creuser, ce qu'il montre simplement, c'est que la dégradation radiologique des patients est moins importante sous méthylprednisolone que sous placebo. Mais quand on connaît les limites d'interprétation d'une radiographie thoracique au lit du patient en réanimation, on est un tout petit peu dubitatif. Néanmoins, cet essai rajoutait un petit peu des arguments pour penser qu'effectivement, il se passe quelque chose avec les corticoïdes dans les pneumopathies et que peut-être ça peut contribuer à leur amélioration. Ensuite, les essais importants, ils n'ont pas porté sur des pneumopathies de réanimation. Il y a deux essais, un essai helvétique et un essai néerlandais, qui ont tous les deux montré que des corticoïdes administrés par voie orale pendant quelques jours chez des patients hospitalisés hors réanimation pour une pneumopathie communautaire raccourcissent la durée d'évolution, raccourcissent la durée d'hospitalisation, et pour l'essai néerlandais, diminuent le nombre de patients, la proportion de patients qui doivent être admis en réanimation secondairement. Donc il y a bien une ambiance globale à ce stade pour penser que les corticoïdes agissent dans la pneumopathie avec des effets potentiellement intéressants, mais pas de démonstration d'un bénéfice sur leur survie.
Merci. Deuxième question, quelle est la méthodologie de l'étude ?
En fait, c'est une méthode extrêmement simple, c'est un essai randomisé, contrôlé versus placebo, avec deux groupes parallèles, un qui reçoit de l'hydrocortisone, un qui reçoit du placebo. C'est un placebo préparé industriellement, donc de ce point de vue-là, pas de difficultés méthodologiques particulières. C'est un essai qui a été financé par le PHRC et qui était promu par le CHU de Tours et qui a été... qui impliquait 31 centres de réanimation français, la plupart d'entre eux appartenant ou faisant partie du réseau CRIX-TriggerCEP. Exclusion des patients atteints de choc septique, ça c'était pour éviter de brouiller le message, en considérant que dans le choc septique, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été réalisés, et même si tous les résultats peuvent être un tout petit peu discordants, mais que malgré tout il y a une efficacité d'hydrocortisone, on le sait, hein, tous les essais sont concordants, les patients mis sous hydrocortisone reçoivent moins longtemps et de plus faibles doses de noradrénaline dans le choc septique. Donc on avait considéré qu'il ne fallait pas confondre les objectifs et qu'on n'était pas dans la problématique du choc septique, mais dans la problématique de la pneumopathie communautaire. On avait également exclu les patients atteints de grippe, parce qu'à ce jour, les données observationnelles, il y a très peu, et il y a en fait un essai randomisé de faible puissance dans la grippe, mais les essais observationnels suggèrent qu'il y a peut-être un signal de sûreté avec les corticoïdes dans la grippe, et donc on avait choisi de ne pas inclure de patients atteints de grippe. Je ne suis pas sûr que la question soit définitivement tranchée, mais en tout cas à ce stade, ça ne nous paraissait pas souhaitable. Et enfin, on avait bien sûr écarté également les patients avec des Do Not Resuscitate Orders, puisque un des objectifs secondaires de l'étude était de voir si on diminuait le nombre d'intubations avec l'hydrocortisone. Alors, deux points particuliers, on a standardisé les critères de sévérité à l'inclusion, puisqu'on excluait le choc septique, on a par contre retenu bien sûr la ventilation mécanique, et puis des critères d'hypoxémie, que les patients soient sous oxygénothérapie à haut débit ou sous oxygénothérapie conventionnelle au masque à réservoir, avec dans le premier cas un rapport P sur F à moins de 300, et dans le deuxième cas un rapport P sur F estimé à moins de 300. Et puis on avait également accepté l'inclusion de patients ayant un score de gravité, qui est le pulmonary injury score, témoignant d'un risque élevé de décès. Ça c'est le point particulier, on a inclus les patients dans les 24 heures qui suivaient l'apparition du critère de sévérité, et donc précocement dans l'évolution de leur maladie. Et puis le deuxième point particulier, c'est qu'on avait, les patients recevaient tous 4 jours d'hydrocortisone full dose, 200 mg par jour, ou un volume équivalent de placebo. Au quatrième jour, en fonction de l'évolution et de critères préspécifiés, on décidait d'un traitement court, 8 jours au total, ou d'un traitement long, 14 jours au total, avec une décroissance progressive des doses d'hydrocortisone, et dans tous les cas, un arrêt du traitement à la sortie de soins intensifs, c'est-à-dire en considérant que si le patient s'était suffisamment amélioré pour pouvoir sortir, il n'y avait pas de raison de le laisser exposer plus longtemps aux corticoïdes. Donc un design de ce point de vue-là extrêmement simple, un calcul d'effectifs à inclure qui amenait à inclure 1200 patients, deux analyses intermédiaires, réinclusion du premier tiers, et le comité de surveillance indépendant a suggéré la poursuite des inclusions. Et après inclusion du deuxième tiers, donc de 800 patients, le comité de surveillance a recommandé l'interruption de l'étude. Alors, un point particulier, c'est que l'étude était en cours, les derniers patients étaient inclus début mars 2020, à un moment où arrivait la vague Covid en France, et où les services de réanimation étaient quasiment totalement dédiés au Covid. On n'a pas vu d'autres pneumopathies pendant quelques temps dans nos services. Certains services étaient tellement occupés qu'ils ne pouvaient plus participer à l'activité de recherche clinique. Et surtout, on avait choisi de profiter de cette étude pour évaluer l'hydrocortisone dans la COVID-19. Donc on a créé une étude dans l'étude. Donc on a interrompu le recrutement en pensant le reprendre plus tard. bien que le temps passait. Et le comité de surveillance indépendant a considéré, sur l'analyse des 800 premiers patients, que d'une part, il était très peu probable que l'inclusion de 400 patients complémentaires change le résultat. Ensuite, que les vagues Covid qui se succédaient à ce moment-là ne permettraient pas de reprendre dans de bonnes conditions, qu'il était donc préférable d'interrompre le recrutement. Et évidemment, cet avis du DSMB a été pris après une analyse qui elle-même a été retardée par les vagues Covid, parce qu'on n'avait pas toutes les données et qu'on ne pouvait pas envoyer les demandes de précision aux différents centres qui étaient trop occupés, ce qui explique qu'on a pris un petit moment pour analyser ces données, pouvoir finalement conclure l'analyse finale de l'étude.
Merci. Alors, dernière question. Quels sont les principaux résultats et comment peut-on les appliquer en pratique courante ?
Ah ben, alors le résultat, l'objectif principal de l'étude, c'était d'évaluer la mortalité toutes causes confondues à 28 jours après l'inclusion. Et le résultat est assez simple, puisque la mortalité est de 11,9% dans le groupe placebo et de 6,2% dans le bras hydrocortisone. Et c'est une différence qui est tout à fait significative. Donc il y a indiscutablement un bénéfice en termes de survie à l'administration d'hydrocortisone dans les pneumopathies graves admises en réanimation. Alors, il y a des critères secondaires et qui viennent renforcer le message. On a également regardé la mortalité à 90 jours, et là encore, on a une différence significative au bénéfice de l'hydrocortisone. La probabilité de sortir vivant de réanimation est plus élevée aux hydrocortisone. Et puis, on a regardé des sous-groupes particuliers chez les patients qui n'étaient pas traités par ventilation mécanique à l'admission, à l'inclusion. Eh bien, la probabilité d'être intubé est significativement plus faible dans le bras hydrocortisone. Et c'est également vrai si on prend non seulement les patients qui n'étaient pas ventilés, mais en se concentrant uniquement sur ceux qui étaient intubés, en excluant les patients sous ventilation non-invasive. Là aussi, il y a moins de patients qui nécessitent l'intubation par la suite. Si on prend on a dit qu'on avait exclu les chocs septiques, donc la proportion de patients recevant la noradrénaline à baseline était faible, de l'ordre de 11%. On avait accepté des patients mis sous noradrénaline après l'intubation, quand le clinicien estimait que c'était une hypotension secondaire à la mise sous ventilation mécanique avec haut niveau de PEP et traitement sédatif, même si bien sûr probablement il y a eu la participation de sepsis dans ces histoires. Il est difficile d'exclure complètement que quelques chocs septiques aient pu être inclus, mais ils ont été minoritaires. Et donc chez ces patients qui n'étaient pas sous noradrénaline, eh bien là aussi le recours à la noradrénaline est plus rare chez les patients mis sous hydrocortisone que chez ceux recevant le placebo. Quand on regarde, on n'a pas retrouvé, nous, le résultat de Confalonieri, c'est-à-dire que l'évolution du rapport PO2 sur FiO2 n'est pas différente entre les deux groupes. En revanche, quand on regarde les scores de défaillance viscérale, en l'occurrence le SOFA, eh bien, il diminue plus rapidement dans le bras hydrocortisone que dans le bras placebo. Donc l'ensemble des critères secondaires vont dans le même sens d'une efficacité de l'hydrocortisone et renforcent le message. Est-ce que c'est sûr d'administrer l'hydrocortisone? On redoute toujours avant tout les complications infectieuses et les surinfections. On n'a pas observé plus d'infections acquises à l'hôpital dans le bras hydrocortisone que dans le bras placebo. Il y a environ entre 20 et 22% des patients qui ont été intubés à un moment ou à un autre ont développé une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, et donc avec des pourcentages tout à fait de même nature dans les deux groupes. On avait regardé également les hémorragies digestives, mais elles sont très rares et en pratique, là encore, sans différence entre les deux groupes. Et ce qu'on observe simplement, c'est qu'on a, chez les patients qui reçoivent de l'insuline, la dose d'insuline administrée est plus importante en dose médiane quotidienne dans le groupe hydrocortisone que dans le groupe placebo, mais ça c'est un effet pharmacodynamique de l'hydrocortisone qui est bien connu, qui incite simplement à être un tout petit peu vigilant, parce qu'il n'est pas anodin complètement d'administrer de l'insuline, et il faut évidemment prendre ça en compte, mais globalement la réponse est que l'hydrocortisone est parfaitement bien tolérée. La conclusion globale, c'est, je crois, que chez les patients admis en réanimation pour une pneumopathie aiguë sévère, avec des critères donc de ventilation mécanique ou d'hypoxémie, l'hydrocortisone à dose faible, 200 mg par jour, débuté précocement, moins de 24 heures après le début du critère de sévérité, administré sur une durée courte. On l'a dit, c'était 8 jours ou 14 jours en durée maximum en fonction de l'amélioration mesurée au quatrième jour, mais en réalité, les patients sous hydrocortisone, la durée médiane de traitement était de 5 jours seulement. Donc un traitement court, eh bien, ça améliore la survie au 28e jour et ça diminue le recours à la ventilation mécanique ou au vasoconstricteur, et c'est globalement très bien toléré. Les points particuliers, nous n'avions relativement peu de patients immunodéprimés, sévères en tout cas, parce que comme dans beaucoup d'études, on a exclu les patients leucopéniques notamment, et donc sans doute chez ces patients-là, où les profils en plus de germes ne sont pas tout à fait les mêmes, eh bien sans doute chez ces patients-là, il convient d'être prudent sur l'application de ces résultats. Enfin, un point important, c'est qu'on a eu 55% des pneumopathies, 54% exactement, de pneumopathies documentées au plan microbiologique, mais on ne faisait pas de recherche spécifique exhaustive, et donc il reste 46% de pneumopathies non documentées. Ça, c'est, on n'a pas à rougir, hein, et dans la plupart des essais, on est plutôt sur des documentations microbiologiques au mieux de cet ordre-là. Simplement, dans les 46%, on n'a pas de documentation, il y a probablement un certain nombre de virus, et donc... Comme ça a été démontré dans le Covid, il est vraisemblable qu'on peut tout à fait administrer l'hydrocortisone chez les patients atteints de pneumopathie virale. Je mettrai juste un bémol sur la grippe. Jusqu'à présent, informé, il n'est pas recommandé de l'administrer dans la grippe.
Merci, professeur Pierre-François Dequin, d'avoir répondu à nos questions sur votre étude portant sur l'utilisation de l'hydrocortisone dans les pneumonies communautaires sévères admises en réanimation.